France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Savez-vous pourquoi la journée mondiale de la bipolarité tombe chaque 30 mars ? Eh bien, c'est parce que c'est le jour anniversaire de Van Gogh, figurez-vous, qui était bipolaire lui-même. Mais si on cherche, comme je l'ai fait, les bipolaires célèbres, on trouve une foule de noms. Mariah Carey, Mel Gibson, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Ernest Hemingway, Frank Sinatra, Benoît Poulvord, Nietzsche, Lincoln, Virginia Woolf. Et je me suis demandé d'ailleurs, devant cette liste de noms qui n'est pas exhaustive, si on n'avait pas tendance à coller l'étiquette bipolaire un peu trop facilement. On posera la question à ceux que ça concerne directement, si ça les agace aussi, les gens qui sont bipolaires, comme si au fond, tous les gens avec des sautes d'humeur étaient à mettre dans le même sac. Or, vivre en étant bipolaire, c'est largement possible, on y passera du temps ce soir. C'est aussi parfois, bien sûr, des rechutes, ce sont des diagnostics qui parfois sont tardifs, donc des années d'antidépresseurs avant que quelqu'un vous envoie sur une autre voie, ce sont des aides qui sont nécessaires. Et c'est toujours la même chose, les troubles mentaux, ce sont aussi les parents pauvres de la médecine, et toujours tellement de tabous. 1 à 2% de la population est bipolaire en France. C'est un chiffre important, mais c'est important donc d'expliquer comment diagnostiquer, comment avoir une vie active parfaitement normale, comment ça se traite. Important de comprendre à quoi ça ressemble, la vie avec un trouble bipolaire. C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Linda, c'est vous la première. Bonsoir Linda, soyez la bienvenue.
Bonsoir Fabienne, merci beaucoup. De prendre mon témoignage. Alors moi je suis une maman de famille, j'ai 45 ans, 2 enfants, je suis mariée. J'ai été diagnostiquée trouble bipolaire il y a environ 3 ans au cours d'une phase maniaque pendant laquelle j'ai été hospitalisée d'office, on va dire, en hôpital psychiatrique. Ça a été très violent pour moi. Voilà, depuis je suis enfin prise en charge, sous traitement, à peu près stabilisée, on va dire, depuis 2 ans, donc suivie par un médecin psychiatre. Donc je voulais faire part de 3 choses, c'était de l'errance médicale possible et du retard de diagnostic des malades bipolaires, en tous les cas ça a été mon cas. Les conditions de l'hôpital psychiatrique actuellement, en tous les cas ce que j'ai pu en voir à Lyon quand même, c'est une grande ville. Et puis, troisième point, sur apprivoiser la maladie et faire face au regard des autres. Donc, l'errance médicale, j'ai fait pas mal de dépressions depuis assez jeune. Je suis régulièrement allée voir des psychologues, peu de psychiatres peut-être. J'ai été soignée plusieurs fois pour dépression avec des antidépresseurs. Et j'ai fait un gros burn-out au travail. J'ai donc voulu avoir l'avis d'un psychiatre. Et donc suite à ça, j'ai eu cette phase maniaque. Et le fait d'avoir été hospitalisée et suivie par ce psychiatre a permis de poser le diagnostic de la maladie et surtout avoir enfin un traitement qui me permette de vivre en tous les cas depuis 2 ans à peu près normalement, donc avec un traitement de régulateur de l'humeur. Voilà.
Eh ben, ouais. Merci beaucoup pour ce témoignage, Linda, parce qu'on comprend beaucoup de choses et en vous entendant et pour avoir lu beaucoup de témoignages en préparant cette émission, je me dis que votre parcours visiblement ressemble à beaucoup d'autres. Je vais vous présenter les invités qui sont autour de cette table. Marion Le Boyer, là. Bonsoir, Marion Le Boyer.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de psychiatrie à l'université Paris-Est Créteil, responsable du pôle psychiatrie et addictologie des hôpitaux universitaires Henri Mondor à Créteil. Vous avez notamment écrit, et je le cite, « Réinventer notre santé mentale avec la Covid-19 », c'est publié chez Odile Jacob. Et puis Jean-Christophe Leroy est là également. Bonsoir Monsieur Leroy.
Bonsoir.
Ah voilà, vous êtes président de l'association Positive Minders, une association de patients, de professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des maladies psychiques. Marion Le Boyer, quand j'entends Linda, j'ai l'impression effectivement de lire un parcours hélas classique. Elle a 45 ans, Linda, diagnostiquée depuis 3 ans seulement. Et ce qu'on entend souvent, c'est exactement ce qu'elle dit. C'est-à-dire que c'est d'abord la dépression qu'on essaye de soigner et donc on va dans la direction exactement celle dans laquelle on ne devrait pas aller en quelque sorte en fait.
Ben c'est pas si facile que ça, mais c'est vrai que Linda, elle traduit, elle décrit un parcours qui est malheureusement aujourd'hui tout à fait classique. L'errance diagnostique, on sait en France qu'il faut en moyenne 9 ans pour poser un diagnostic de trouble bipolaire. Et 9 ans, c'est 9 ans de rechute, comme elle l'a décrit, c'est 9 ans de difficultés personnelles, familiales, professionnelles, alors même qu'on a des traitements stabilisateurs de l'humeur qui sont efficaces, en tout cas dans un très grand nombre de cas, et d'autant plus efficaces que c'est prescrit tôt. Ceci dit, c'est pas si simple que ça, parce que quand ça commence par un épisode maniaque, c'est simple. Quand ça commence par des épisodes dépressifs, c'est pas si facile
que ça. C'est exactement ce que j'allais vous demander, en fait. Est-ce qu'il est plus facile d'aller chercher la bipolarité quand on est effectivement dans un épisode maniaque que dans la dépression? Parce qu'au fond, des formes de dépression et puis des dépressions d'une manière générale, il y en a évidemment beaucoup. Ça existe hélas partout, Marion Le Boyer.
Alors, il n'y a pas d'autre diagnostic possible quand il y a un épisode maniaque. Donc, le diagnostic,
exactement,
il est simple. Par contre, quand il y a un épisode dépressif et quand ça, la maladie débute par un épisode dépressif, il faut savoir aller chercher des antécédents familiaux, par exemple, de troubles bipolaires. Il faut aller chercher des petits épisodes maniaques qui s'appellent des épisodes hypomanes, qui sont souvent masqués parce que les gens se sentent très bien quand ils sont hypomanes et qui n'ont pas spontanément l'envie d'aller voir un médecin pour ça. Il faut aller chercher des facteurs déclenchants comme un jet lag ou une difficulté de sommeil ou un stress particulièrement important. Et puis, on a besoin de continuer à soutenir la recherche qui reste encore en France le parent pauvre de la recherche et du domaine biomédical parce qu'on a besoin de trouver des marqueurs qui, devant un épisode dépressif, permettent de savoir si on a ou on va déclencher un trouble bipolaire ou pas.
Est-ce que ça veut dire, pour les gens qui nous écoutent, Jean-Christophe Leroy, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire des épisodes dépressifs successifs et que les épisodes maniaques au fond passent inaperçus, ou est-ce que ça veut dire qu'on peut même attendre longtemps avant de faire un épisode maniaque? Racontez-moi, parce que moi j'ignore ça.
Absolument, c'est la grande difficulté, c'est ce qui est souligné par Marion. Et finalement, pour réellement arriver à mettre au point un diagnostic, il faudrait avoir des marqueurs. Alors, il y a quelques pistes, il y a des avancées de la recherche, et comme le dit Marion, il faut investir dans la recherche.
Ce qui semble effectivement difficile, on y viendra forcément, Linda y faisait allusion aux conditions des hôpitaux psychiatriques et, je le disais tout à l'heure en introduction, aux parents pauvres de l'hôpital qui est hélas la psychiatrie. Je voudrais d'abord qu'on écoute Nico. Bonsoir Nico.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Donc moi j'ai été diagnostiqué en 2008, j'ai repris deux fois mes études en 10 ans, dont la dernière avec une mention majeure de promotion.
Bravo.
J'ai un métier stressant et pourtant je le gère très bien. Je suis sous traitement depuis 2008 avec une rechute où j'ai arrêté la molécule au bout de 4 ans et depuis je ne l'ai plus jamais arrêté et tout va très bien. Je voudrais juste dire, s'il y a des gens dans mon cas qui nous écoutent, eh bien surtout vous interdisez rien. Vivez surtout avec un rythme de vie très équilibré. Ne manquez pas de sommeil. Et puis rien ne vous est interdit, quoi.
Et vous dites, vous aussi, Nico, que dans votre entourage, les choses se passent parfaitement bien dès lors qu'on explique.
Ouais.
Il faut juste mettre des mots dessus, en fait. C'est ça que ça veut dire.
Mais il a fallu du temps pour mettre des vrais mots dessus, savoir ce qu'on ressent pendant ces crises. Moi, j'ai fait des crises maniaques, à pas dormir pendant 10-12 jours, à pas m'alimenter, à pas boire et à ne pas avoir la sensation de faim, de soif et de sommeil. Donc j'ai été très bien entouré par mon entourage pendant l'hospice et surtout après à la sortie, quand on réalise ce qu'on a fait. Et tout mon entourage est au courant, au travail ils sont au courant, tous mes copains qui m'entourent savent que tous les 28 jours je vais à l'hôpital pour me faire injecter une molécule en particulier. Depuis 6 ans que je suis passé à l'injection, le flux est constant dans le cerveau et il n'y a eu aucune rechute. Et on pense même avec Dr Berterec à Dax de peut-être arrêter la molécule parce qu'il m'avait dit qu'on pouvait possiblement, au bout de 5 ans sans rechute, avoir la possibilité peut-être d'arrêter la molécule.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Nico. Vraiment, Marion Le Boyer, là, en parlant de rechute justement et d'arrêter la molécule de Nico, comment ça se fait qu'on arrête parfois le traitement? Est-ce qu'on se dit, quand on est atteint de troubles bipolaires, est-ce qu'on se dit « non mais je vais bien ». Donc je peux arrêter? Est-ce que c'est pour ça aussi que parfois on arrête?
Alors c'est vrai que le message positif que Nico vient de nous transmettre, c'est qu'on peut aller parfaitement bien et mener une vie parfaitement normale, même quand on a un métier stressant. Et je pense que ça, c'est vraiment un message très positif. C'est une maladie qu'on peut vraiment prendre en charge, améliorer au point d'avoir une vie parfaitement normale, à condition de garder son traitement et de pas l'arrêter quand on pense qu'on va bien et qu'on n'a plus besoin de médicaments. C'est aussi extrêmement important, il a souligné tout à l'heure, d'avoir une hygiène de vie importante. Et ça, c'est vraiment des éléments clés. Il faut avoir un sommeil régulier, il faut avoir une activité physique régulière.
Activité physique, régime alimentaire, etc. Voilà. Surveiller son poids.
C'est extrêmement important. Et puis, il a dit autre chose qui m'a beaucoup touchée.
Éviter l'alcool, éviter le tabac, par exemple, paraît-il.
Il faut éviter les excitants. Donc, tout ce qui va... ce qu'on va rechercher quand on a un petit peu la tristesse d'avoir eu un épisode maniaque et d'avoir eu cette rapidité de pensée, de projet, etc. C'est pas bon du tout parce que ça stimule et que tout ce qui stimule peut déclencher des épisodes maniaques. Donc il faut avoir cette conscience qu'on peut aller parfaitement bien à condition de respecter un certain nombre de règles qui sont de toute façon bonnes pour la santé.
Absolument, et pour tout le monde d'ailleurs, de toute façon, d'une manière générale. Jean-Christophe Leroy, jusqu'à quel point c'est contraignant en fait le traitement là notre ami nous explique Nico, que au fond, une fois tous les 28 jours, il va à l'hôpital et que ça se passe finalement assez bien. Est-ce que les contraintes ont largement baissé aujourd'hui ?
Alors, en fait, le traitement, il peut se faire péros, donc en prenant des cachets, et puis il peut se faire aussi par injection. Injection dépôt, Nico exprime quelque chose de très, très fin, c'est-à-dire que la molécule se libère progressivement. Et donc le traitement, plutôt que d'être pris par petite dose chaque jour, est constant en fait dans le corps. Donc ça apporte un confort supplémentaire. En revanche, tout le monde n'est pas prêt à avoir une injection tous les mois ou tous les 3 mois comme ça peut exister.
À quoi ça ressemble, Marion Le Boyer, une phase maniaque en fait ? Comment est-ce que vous disiez que ça se diagnostique très vite en fait ? C'est comme ça effectivement que vous arrivez à faire des diagnostics, mais au fond ça ressemble à quoi ? Qu'est-ce qu'on imagine de désinhibition, d'idées délirantes ? Nico nous parlait de cette capacité à ne pas dormir pendant des jours entiers. À quoi ça ressemble en fait ?
Phase maniaque, en gros, c'est l'inverse d'un épisode dépressif, c'est-à-dire que les idées vont extrêmement vite, les projets fusent, il y a parfois des prises de risques qui sont particulièrement dangereuses. Il y a une impression de toute puissance et de mégalomanie. Il y a une absence de sommeil, et ça c'est probablement le signe le plus caractéristique, le plus pathognomonique, comme on dit en médecine, c'est qu'il y a une absence de sommeil sans fatigue. Il y a une accélération de tous les processus cognitifs et physiques, et il n'y a pas beaucoup d'autres diagnostics, il n'y en a pas d'autres que celui du trouble bipolaire quand on est face à un épisode comme ça.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on s'en rend forcément compte ? On ne peut pas le confondre, par exemple, avec juste un moment où, effectivement, on est à fond, on a effectivement des idées. Il y a aucune chance qu'on confonde en fait cet épisode maniaque avec autre chose.
Il y a plusieurs degrés. Il y a ce qu'on appelle les épisodes hypomanes, où il y a cette accélération du fonctionnement, mais qui en général est très productive, c'est-à-dire qu'on est plutôt extrêmement efficace. Et puis il y a l'épisode maniaque où là, franchement, le seuil est beaucoup plus important et la dangerosité pour le patient lui-même qui peut commettre des actes pour lui-même qui peuvent être dangereux. Ou se mettre dans des situations financières difficiles, par exemple. Et là, le fonctionnement est très, très altéré, mais la conscience des troubles est quelquefois difficile.
Alors, j'allais vous dire, est-ce qu'on s'en rend compte ou est-ce que c'est l'entourage qui s'en rend forcément compte et qui, à un moment, doit vous emmener vers le soin ?
C'est très souvent l'entourage. C'est pour ça que si on revient sur ces épisodes inauguraux par un épisode très dépressif, par exemple, c'est très important de voir le conjoint, de voir les parents, pour pouvoir aller rechercher des épisodes qui, quelquefois, peuvent être moins intenses et moins graves que ce qu'on vient de décrire, mais qui sont vraiment la caractéristique d'un trouble bipolaire, et c'est souvent l'entourage qui s'en rend compte parce qu'ils en souffrent beaucoup plus que le patient lui-même.
Jean-Christophe Leroy, en lisant un témoignage, une jeune femme disait qu'elle sentait monter l'épisode maniaque. Est-ce qu'on peut essayer de décrire ça ? Comment on sent monter l'épisode maniaque ? Et est-ce qu'on sent aussi monter l'épisode down, en fait, l'épisode de dépression ?
En fait, quand vous allez bien, vous avez parfois des sensations grisantes. Vous êtes entraîné par des envies. Vous sentez capable de grimper en haut de la montagne. Ou vous vous sentez capable de traverser la piscine à toute allure. Et puis, quand vous allez trop bien, alors vous allez décider de traverser le pays dans la journée, à pied. Vous allez décider de traverser un lac à la nage. Et donc, on sent effectivement qu'on a de plus en plus de capacités, et quand on a appris en fait à gérer sa maladie avec de la psychoéducation, parce que le soin c'est pas que les médicaments, c'est plein d'autres choses autour, on apprend en fait à découvrir ses symptômes et donc à sentir monter la venue d'une soit d'un épisode dépressif, soit d'un épisode maniaque.
Est-ce que, Marion Le Boyer, je repense à notre auditeur tout à l'heure qui nous disait « j'ai arrêté les traitements un moment ». Quand on n'a jamais été sous traitement, qu'on n'a pas identifié sa maladie, j'entends ce que nous dit Jean-Christophe Leroy, on peut imaginer que ça met un certain temps de réaliser qu'on n'est pas dans son état normal. Est-ce que quand on a arrêté les traitements, et que alors qu'on n'aurait pas dû, on s'est identifié parfaitement bien, parce qu'on finit par se connaître vraiment, on s'est identifié parfaitement bien qu'on est en train de rentrer dans une phase maniaque ou dans une phase dépressive, et on sait soi-même en fait qu'il faut immédiatement aller chez son médecin.
On le sait d'autant mieux qu'on a suivi des séances d'éducation thérapeutique, de psychoéducation, qui sont extrêmement utiles parce qu'ils apprennent au patient et à son entourage d'ailleurs à être des experts de sa pathologie et à reconnaître ces signes qui vont être des signes avant-coureurs d'une rechute, à connaître les facteurs déclenchants, à comprendre qu'il ne faut pas arrêter son traitement et pourquoi il ne faut pas l'arrêter. Et donc ça fait partie, en plus du traitement, de toutes les stratégies thérapeutiques qui sont absolument indispensables et qui sont d'une efficacité extrêmement importante.
Est-ce que la psychothérapie doit obligatoirement accompagner la chimie ou pas ?
Alors le traitement d'un trouble bipolaire, c'est un trépied, donc c'est le bon traitement au bon moment, et le traitement clé dans un trouble bipolaire, c'est ce qu'on appelle le thymorégulateur, donc le traitement qui va prévenir les rechutes dépressives et les rechutes maniaques, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi toute la partie psychothérapie, thérapie psychosociale, et suivant les cas, suivant l'âge, suivant l'évolution de la maladie, il y a plein de formes de psychothérapie qui doivent être prescrites et mises en place de façon très spécifique, par exemple la psychoéducation ou la remédiation cognitive, parce qu'il y a des difficultés cognitives. Et le troisième pan de ce trépied, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce sont les règles d'hygiène de vie qui sont aussi très importantes.
Et c'est pour ça, c'est dans cet ensemble de traitements, tout à l'heure Linda parlait d'apprivoiser sa maladie, et c'est grâce à ça, j'imagine, qu'on arrive aussi à la comprendre et l'apprivoiser, donc mieux vivre avec.
Absolument.
Solène est avec nous. Bonsoir Solène.
Bonsoir.
On vous écoute Solène.
Moi je voulais juste pour témoigner parce que je suis considérée du coup comme aidante. C'est pas moi qui suis bipolaire, c'est mon conjoint. Et voilà, donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble, il a un traitement qui est stable et ça se passe très bien. Ça a été beaucoup de discussions au tout début pour qu'il m'explique voilà comment ça fonctionne, puisque je connaissais très peu comment il fonctionne, parce que du coup lui il sait quand est-ce qu'il va avoir des phases où il va être un peu plus down du coup. Il me prévient avant, il sait qu'il a besoin de s'isoler pour pas avoir un comportement, on va dire, déplacé. Donc là-dessus, on a un fonctionnement qui a l'air de fonctionner. Voilà, en tout cas, c'est pas mal. En tout cas, c'était plus pour dire que vivre avec une personne bipolaire, ça se fait très bien. À partir du moment où voilà, elle est prise en charge, ce qui a été dit avant, mais ça, voilà, aucun problème, comme une personne diabétique au final qui a son traitement.
Et du coup, Solène, d'ailleurs, la première fois que votre conjoint vous en a parlé, est-ce que votre premier réflexe a été de dire « Ouh là là, ça va être compliqué » ou alors est-ce que ça a été de dire « Bon, très bien, raconte-moi comment ça s'est passé pour vous ?»
Moi, je suis...
Les deux, peut-être.
Je suis ostéopathe à la base, donc j'avais déjà quelques notions dans les pathologies... Je sais pas si on peut dire les maladies mentales, mais...
On peut dire maladies mentales, d'ailleurs, Marion Le Boyer. Hein. Faut pas avoir peur d'employer ces mots-là, absolument, ouais.
Et donc, du coup, voilà, je l'ai beaucoup écouté, il m'a expliqué, et ça m'a pas fait spécialement peur, parce que, du coup, je lui ai posé plein de questions sur où il en était, en fait.
Ça veut dire que
moi,
vous savez...
j'ai rencontré, il était déjà stable, donc...
Ça veut dire que vous savez repérer aussi, en fait. Lui est capable de vous dire, laisse-moi m'isoler, parce que en ce moment, ça va moyen, mais vous savez aussi repérer chez votre conjoint les moments où il n'est pas tout à fait dans son état.
C'est ça. Après, il faut accepter de pouvoir pas faire grand-chose à part être là s'il a besoin, mais d'accepter que c'est pas en lui... en essayant de le réconforter ou de lui apporter des solutions, que c'est un stade au-dessus, quoi. On ne peut pas faire grand-chose à part attendre.
Merci.
Ou surveiller qu'il n'y ait pas de gros changements. Quoi.
Ouais, et qu'il ne se fasse pas du mal non plus, d'ailleurs, j'imagine. Solène, je vous remercie beaucoup. Jean-Christophe Leroy, vous, le président de l'association Positive Minders, vous êtes une association de patients. Est-ce que c'est ce que vous leur dites aussi ? Parlez-en, y compris à votre conjoint, surtout à votre conjoint d'ailleurs, racontez-leur, donnez-lui les signes, donnez-lui les clés, et ça se passera mieux comme ça.
Alors, on regroupe pas seulement des patients, mais aussi des proches aidants et des professionnels de santé. Évidemment, être proche, c'est un métier. Mmh. En fait, ça s'apprend. Mmh. Ça s'apprend avec une sorte de formation continue. C'est-à-dire que vous apprenez petit à petit à comprendre les signes de la maladie, comment réagir, comment... par exemple, l'isolement qui est évoqué par Solène, c'est aussi une façon de se protéger. C'est-à-dire que tout à l'heure, Nico disait il a un métier stressant et malgré tout, il arrive à gérer. Le stress est quand même un facteur souvent déclenchant, souvent de rechute. Apprendre à gérer son stress, c'est arriver à gérer tous les stimuli qu'il y a autour de soi. Mmh. S'isoler, c'est diminuer les stimuli, donc c'est aussi quelque part se protéger. Mmh. Comprendre ça pour un proche, c'est pas évident au départ. Mmh. Au départ, c'est difficile à accepter. Et donc, apprendre les signes de la maladie, apprendre en discutant avec les personnes concernées, découvrir l'effet des médicaments, découvrir comment réagir dans certaines circonstances et comment maintenir le lien de communication avec les personnes concernées, c'est extrêmement important parce que ça crée un environnement pour que la personne se rétablisse, construise sa vie et ait une vie satisfaisante.
Il y a ce message sur franceinter.fr d'une auditrice qui nous dit « Certains bipolaires ne veulent pas se soigner, ils ont évidemment besoin d'aide quand même. » Et vos intervenants ont sûrement une réponse là-dessus. Y a-t-il un déni parfois des malades, Marion Le Boyer? Comment on arrive à passer par-dessus ce déni?
Ça prend du temps dans certains cas. Et c'est la seule réponse à cela, c'est de faire ce que nous faisons ce soir, c'est-à-dire d'en parler exactement comme Solène vient d'en parler, c'est-à-dire en disant « c'est une maladie comme les autres, quand on se soigne, qu'on prend son traitement correctement ». Et qu'on informe ses proches et que les proches soutiennent, ça se passe très bien. Elle a donné un message extrêmement positif. Et je pense que c'est important de mieux connaître cette maladie, d'en parler comme nous le faisons ce soir, de laisser la parole aux patients et de ne pas avoir une vision finalement très fausse et des fausses représentations de cette maladie.
Parce que, et justement c'est une question difficile, on a ce message aussi sur franceinter.fr qui nous dit mais comment expliquer que les maladies mentales restent si taboues? Est-ce que vous avez une réponse, vous, la professeure de psychiatrie? Aujourd'hui encore,
elle reste taboue parce que on n'en parle pas assez, parce qu'on n'explique pas assez, parce que les énormes connaissances qu'on a acquises grâce à la recherche depuis ces 10 dernières années restent très peu communiquées, très peu transmises, et que ça reste forcément quand c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, ça fait peur. Mmh. Et donc je pense que c'est extrêmement important d'abord de laisser parler les auditeurs comme on le fait là de situations finalement très positives. Ils ont des messages extrêmement positifs. Mmh. C'est des maladies comme les autres. Je peux en parler autour de moi. Ça se soigne si je prends bien mon traitement, je peux mener une vie normale et en plus, la recherche fait des progrès, comme pour toutes les pathologies, et améliore la compréhension, le diagnostic et bien sûr la prise en charge de ces pathologies.
Est-ce qu'on dit d'ailleurs que les troubles bipolaires sont ceux qui se traitent le mieux du panel des maladies mentales? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas?
C'est une des seules pathologies où on a un traitement, en plus des traitements des épisodes, où on a un traitement préventif et aussi entre les épisodes, la capacité d'identifier un certain nombre de stratégies thérapeutiques suivant les cas qu'il faut mettre en place. Par exemple, quand il y a un trouble du sommeil, par exemple, quand il y a des difficultés cognitives. Il y a toute une série de facteurs à prendre en compte aussi entre les épisodes pour apprendre à mieux maîtriser sa maladie.
Et quand vous dites entre les épisodes, suivant les gens, est-ce que ça peut être un très long laps de temps entre deux épisodes ou est-ce qu'au contraire, ce sont en général des épisodes qui sont très resserrés? Est-ce que plus on avance, si on ne se soigne pas, plus les épisodes sont resserrés? Comment ça se passe?
Absolument. Si on ne se soigne pas, on risque de développer ce qu'on appelle un trouble bipolaire à cycle rapide, c'est-à-dire avec des épisodes qui reviennent très souvent, malheureusement. Mmh. Et avoir des épisodes, c'est pas très bon non plus pour le pronostic. Donc il faut vraiment faire tout ce qu'on peut faire, et on peut faire beaucoup de choses pour empêcher ces rechutes, empêcher ces récidives et faire que la période entre les épisodes soit le plus long possible.
Et est-ce que les épisodes sont très variablement longs en fait? Est-ce que on parlait de phase maniaque tout à l'heure, c'est je ne sais plus quel est l'auditeur, je crois que c'est Nico qui parlait de 10 jours, 12 jours sans sommeil, ça veut dire quoi une longueur d'épisode qu'il soit maniaque ou dépressif d'ailleurs?
Ça dépend de la rapidité du diagnostic, ça dépend des facteurs déclenchants, ça dépend de la prise en charge qu'on va proposer, ça dépend de l'âge, ça dépend d'énormément de choses. Mais le message positif, c'est que comme dans toute pathologie, plus tôt les choses sont prises en main et plus le meilleur est le pronostic et moins longs sont les épisodes.
Bonsoir Marianne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Alors, j'ai une impression, elle est peut-être fausse, mais j'ai l'impression qu'il y a 20 ou 30 ans, on ne parlait pas de bipolarité. En tout cas, le mot était moins évoqué. Mmh. Alors, j'aimerais savoir si c'est une maladie nouvelle qui est peut-être due à notre façon de vivre, ou bien si la maladie avait un autre nom et qu'on l'appelle maintenant bipolarité.
Merci beaucoup, Marianne. Jean-Christophe Leroy, c'est vrai qu'on disait maniaco-dépressif à une époque. Est-ce que c'est simplement parce que c'est plus facile, ce mot de bipolarité, qu'on a changé le vocabulaire?
On disait même une psychose maniaco-dépressive.
Ouais.
Effectivement, l'un des objectifs était de mieux représenter la maladie à travers le mot. Le changement... c'est aussi quelque chose qui est en train d'être réfléchi dans le domaine de la schizophrénie, par exemple. Et évidemment, tout ça est lié fortement à la stigmatisation, c'est-à-dire que la mauvaise utilisation du mot, les idées reçues autour d'un mot, pour essayer de s'en dégager, on a souvent l'idée de dire « changeons de terme ». En l'occurrence, pour la bipolarité, ça a quand même relativement bien marché, puisque... Effectivement, on en parle beaucoup plus aujourd'hui et qu'un certain nombre de personnes, comme vous l'avez dit en introduction, un certain nombre de personnes avec grande notoriété parlent de leurs troubles.
Mais le sont vraiment, parce que je me suis interrogée moi en voyant cette liste de noms qui là, ceux que j'ai cités, cette liste est très loin d'être exhaustive, donc je me suis demandé à un moment si on mettait pas ce mot de bipolarité un peu à toutes les sauces en fait, Jean-Christophe Leroy.
Alors, j'ai pas ce sentiment qu'on le met vraiment à toutes les sauces. L'expression de la bipolarité est très dépendante de chaque personne. C'est-à-dire qu'il faut pas imaginer que vous rencontrez une personne bipolaire, vous comprenez tout de la bipolarité. Vous allez avoir des expressions de la bipolarité qui sont souvent avec des troubles associés. Par exemple, des comorbidités d'addiction, qui est très fréquente, ou un trouble, comme le disait Marion tout à l'heure, trouble cognitif ou des troubles du sommeil. Mais vous n'allez pas retrouver tous ces troubles de façon identique chez toutes les personnes qui souffrent de bipolarité. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'allez pas avoir des cycles maniaques ou des alternances dépressives avec la même fréquence. Et donc, c'est difficile de se donner une idée de la bipolarité à travers une personnalité ou une autre.
Marion Le Boyer.
Juste pour compléter ce que vous venez de dire, effectivement, le changement de terme qui était la maladie maniaco-dépressive à trouble bipolaire, il y a deux grands changements, c'est trouble et il y a bipolaire avec un S. Et en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait que ce qu'on appelle les troubles bipolaires, c'est un ensemble probablement très complexe et très hétérogène de pathologies, avec des tableaux cliniques, avec des étiologies, avec des causes différentes. Et c'est tout l'enjeu d'un domaine de recherche important en psychiatrie aujourd'hui, qui s'appelle la médecine de précision, et qui a pour objectif d'identifier des formes cliniques homogènes pour lesquelles on va pouvoir comprendre de façon beaucoup plus précise les causes et de développer des stratégies thérapeutiques encore plus précises que ce qu'on fait aujourd'hui.
Mais ça veut dire que, est-ce que comme pour les diabétiques, par exemple, il y a un type 1, type 2, est-ce que c'est comme ça que ça se classifie en quelque
sorte ? Entre autres, donc il y a effectivement des troubles bipolaires de type 1 et type 2. Type 1, c'est l'alternance d'épisodes dépressifs et d'épisodes maniaques. Type 2, c'est quand il y a une alternance d'épisodes hypomanes, donc avec une sévérité un peu moins grande et d'épisodes dépressifs. Et il y a beaucoup d'autres formes cliniques, selon l'âge de début, par exemple, ou selon le fait qu'on commence par un épisode maniaque sa maladie, ou qu'on a des épisodes par exemple psychotiques au début de sa pathologie, ou qu'il y a des comorbidités. Bref, il y a toute une série de... On est au début de la découverte de toutes ces pathologies, ces formes cliniques.
Vous parlez de l'âge, en fait. Est-ce que il est fréquent d'avoir des enfants qui sont bipolaires? Est-ce que ça se déclenche plus tard? Et est-ce qu'on sait d'ailleurs comment elle se déclenche, cette maladie?
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Ouais. Donc, l'âge de début du trouble bipolaire, en fait, on distingue, c'est un travail qu'on a mené avec Franck Bélivier il y a des années, on a montré qu'il y avait trois groupes d'âge de début, avec probablement un tableau clinique et des facteurs étiologiques différents, avec une forme à début précoce, une forme à début intermédiaire et même des formes à début tardives. Ensuite, l'héritabilité, qui est la question que vous posiez sur le est-ce que mes enfants peuvent être malades, c'est une pathologie dont on sait aujourd'hui qu'elle a un terrain génétique extrêmement important, très qui fait partie de ce qu'on appelle les maladies à terrain génétique complexe, parce qu'il y a beaucoup de facteurs génétiques qui sont impliqués. Et ce qu'on sait aujourd'hui, avec on commence à avoir un certain nombre d'idées, c'est que on a une vulnérabilité génétique face à un certain nombre de facteurs environnementaux. Et c'est la rencontre entre ce terrain génétique et ces facteurs environnementaux qui peuvent être des traumatismes ou des stress très sévères, qui peuvent être des infections, qui peuvent être un changement de rythme ou un manque de sommeil, ou une grossesse par exemple, qui peuvent déclencher le début de la maladie.
Génétique, et est-ce que c'est héréditaire ou pas du tout ?
C'est des maladies qui sont héréditaires, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'obligatoirement, on va transmettre à son enfant la maladie. Ça veut dire que s'il y a une rencontre entre ces facteurs de vulnérabilité génétique et des facteurs environnementaux, la maladie peut se déclencher. Et l'important, c'est de savoir qu'on peut-être on est porteur si on a dans sa famille des personnes qui sont malades.
Et donc de
malades,
surveiller son...
Et de ne pas prendre de risques. Par exemple, la consommation de cannabis, c'est un des facteurs de risque, c'est un des facteurs possiblement déclenchants de la maladie, donc il faut faire très attention.
Et on parle du père ou de la mère, ou des deux ?
Les deux.
Mon capitaine, les deux. Donc la transmission peut se faire de l'un ou de l'autre. Nicolas est avec nous. Bonsoir Nicolas.
Oui, bonsoir.
Allez-y Nicolas.
Alors, je voulais simplement apporter mon témoignage. Alors, je m'excuse par avance, je vais peut-être un petit peu ternir le tableau. Je voudrais juste préciser que mon témoignage porte surtout sur les diagnostics qui étaient posés dans les années 80, 90 et début 2000. Et la difficulté, justement, d'arriver à poser un diagnostic, donc c'est ma maman qui était bipolaire, ce dont on s'est rendu compte après coup, et qui était face non seulement à un désert médical, une difficulté à poser un diagnostic, et le déni. Mmh. Le déni des proches, le déni de son propre mari, et la difficulté de trouver une place pour cette maladie, de savoir comment la gérer, que faire, comment l'accompagner, comment nous, on pouvait appréhender ça, moi, du haut de mes 5, 8, 10, 12 ans, mon père un peu plus âgé. Et on était complètement délaissés. À l'époque, on appelait ça, dans son cas, elle, on avait appelé ça bouffée délirante. Mmh. Et ça pouvait arriver, effectivement, quand on s'y attend le moins, avec une phase entre guillemets normale où moi, c'était ma mère entre guillemets classique. Et puis tout d'un coup, ça pouvait partir en phase apathique, en phase maniaque, sans crier gare et sans qu'on sache nous quoi faire, comment réagir, est-ce que c'était normal ? Qu'est-ce qu'il fallait qu'on mette en place et surtout les conséquences que ça peut avoir. J'entendais vos interlocuteurs parler de la question de l'hérédité. Au-delà de l'hérédité et du côté génétique de la chose, c'est que le fait d'avoir grandi comme ça avec une personne en roue libre, qui n'était pas cadrée, pour lesquelles on ne savait pas quoi faire, à part lui imposer un carcan et une camisole chimique qui n'était pas beaucoup plus... c'était pas une très grande réussite, concrètement. Ça nous crée, nos propres doutes. Moi, une fois arrivé à l'âge adulte, je me dis, mais est-ce que je vais recréer la même maladie ? Est-ce que j'ai les mêmes fragilités ? Donc, c'est tout un questionnement à défaire, à reconstruire, et qui n'est pas forcément... on ne sait pas forcément toujours où aller chercher les réponses.
Je comprends ce que vous dites, Nicolas, et c'est intéressant que vous me parliez de votre mère et de ce qui se passait dans les années 80, 90 et au-delà. Jean-Christophe Leroy, diriez-vous aujourd'hui que les écueils auxquels s'est heurté Nicolas, avec un peu de chance, aujourd'hui n'existent plus, n'exagérons rien, mais existent moins, qu'on a cette capacité, cette compréhension aujourd'hui par rapport à la génération d'avant?
Ben, disons, on a fait des progrès du côté de la recherche pour la prise en charge. Mais on a surtout fait des progrès dans la communication vis-à-vis du grand public, dans la psychoéducation et la prise en charge des proches, parce que c'est une vraie souffrance. En fait, ce que Nicolas raconte, c'est la réalité de la maladie quand elle n'est pas prise en charge correctement. La réalité de la maladie, elle est très dure. Elle est les conséquences... des bouffées délirantes ou des phases maniaques peuvent être énormes, de la même façon que des phases dépressives. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un impact sur de la maladie, non seulement sur la personne qui souffre de la maladie, mais aussi sur tout son entourage. Mmh. Alors, la prise en charge de l'entourage, ça passe aussi par de l'éducation thérapeutique, un peu comme le patient. L'entourage doit apprendre à gérer, savoir se protéger, savoir se rétablir, parce que, en effet, ça a un impact sur sa propre santé.
Ça m'ennuie, Marlon Leboyer, parce que on arrive à la fin de l'émission, de finir sur quelque chose de très négatif. Mais enfin, la question sur franceinter.fr est importante, d'un internaute qui dit « Mon meilleur ami s'est suicidé avant tout diagnostic. Nous n'avions pas réussi à le faire prendre en charge avant. Il est parti lors d'un épisode de délire. Est-ce que la bipolarité peut amener au suicide ?» Et je pose aussi la question parce que je me suis rendu compte en voyant cette fameuse liste dont je parlais au début de l'émission, qu'à l'intérieur, il y avait Kurt Cobain, il y avait Virginia Woolf, il y avait Robin Williams. Enfin, est-ce que, oui, si on ne prend pas en charge, c'est un vrai risque avec un vrai pourcentage très haut?
Absolument. Il y a une surmortalité qui est due à plusieurs facteurs dans le cadre du trouble bipolaire, surtout quand il est pas ou insuffisamment pris en charge, qui sont les tentatives de suicide, c'est absolument indéniable. Mais aussi, il faut savoir décrire les comorbidités somatiques, on en a un petit peu parlé. C'est en fait la première cause de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, il y a encore une mauvaise connaissance de ce point-là, et un trop grand clivage entre la prise en charge par son médecin généraliste et par le psychiatre. Et donc, il y a vraiment des recommandations à donner aux patients et à leurs proches. Il faut savoir dépister ces comorbidités, il faut savoir surveiller son poids, sa tension artérielle, sa glycémie, faire un bilan chez le généraliste très régulièrement. Et les règles d'hygiène de vie, elles sont vraiment très importantes.
J'ai un peu mangé votre question, Marie, pardon, bonsoir.
Oui, bonsoir. Mais écoutez, ça fait suite à ce que je viens d'entendre là, même si j'ai très peu de temps. J'avais plus une réflexion sur le thème de la mélancolie, parce qu'on parle beaucoup de la phase maniaque, mais les phases dépressives, on appelle ça aussi mélancolie dans certains, selon les écoles. Et c'est vrai que un patient mélancolique, on a beaucoup de difficultés à le tirer d'affaire en quelque sorte. Et quels que soient les courants que moi j'ai rencontrés, c'est une façon de dire aussi que les psychiatres ne sont pas des magiciens non plus. Beaucoup de patients mélancoliques se suicident. Justement, on vient de l'aborder là maintenant. Alors c'est dommage de terminer une émission comme ça sur une note aussi sombre, mais c'est vraiment une réalité difficile à juguler quand on est accompagnant. Quoi.
Merci beaucoup Marie. C'est vrai qu'on termine de manière un petit peu noire, Marion Leboyer, mais c'est important de le dire aussi, et ça confirme ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire s'observer soi-même, faire attention à soi, faire attention à son alimentation, faire attention à tout ça en même temps, ce qui pourrait éviter les excès dont parle Marie.
Et puis soutenir la recherche, s'il faut conclure par un mot fin, pour effectivement ces patients qui ont des formes de dépression très graves, très sévères, qu'on appelle des mélancolies et qui résistent quelquefois au traitement dans le cadre des troubles bipolaires, il faut continuer la recherche pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils résistent au traitement, de manière à pouvoir trouver des nouvelles stratégies thérapeutiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de pistes qu'il faut soutenir. Donc, merci à tous de soutenir la recherche sur les troubles bipolaires.
Et merci pour cette note positive pour terminer. On a été ravis de discuter de ce sujet ensemble. Merci vraiment à tous les deux. Merci à tous pour vos très nombreux appels.